Et tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes. Cette semaine, de la radicalisation au djihadisme, chroniques intimes d'un fiasco républicain. Au départ de cette série, il y a un mot. Radicalisation, un mot qui est partout, depuis Charlie, depuis le 13 novembre, un mot qu'on manie sans bien comprendre ce qu'il recoupe et surtout sans imaginer comment il s'incarne chez ceux qui vivent cette radicalisation. Alors bien sûr, c'est eux qu'on va entendre. Pour commencer, les personnages. Une mère rongée de honte et d'amertume, un père abandonné, des déradicalisateurs, une anthropologue les mains dans le cambouis, des repentis à la rescousse et des travailleurs sociaux à la peine. Ensuite, le décor. Des missions locales, des cafés, des foyers désertés, des bureaux encombrés. On est toujours en France, à côté de chez vous, de chez nous. Et maintenant qu'on a nommé la radicalisation, il faut inventer la déradicalisation. Alors on est allé écouter ceux qui tentent d'éteindre l'incendie en imaginant eux-mêmes un métier et des méthodes. Aujourd'hui, quatrième et dernier épisode, Déradicalisation, mode d'emploi, un documentaire d'Alain Lefkovitch réalisé par Doria Zénine.
L'histoire, la vraie, c'est qu'il y a des gens qui déradicalisent, ça c'est certain. Mais après, c'est compliqué, la déradicalisation. Ça fait 2 ans, moi, que j'essaye de déradicaliser mon fils. Mieux placé que moi, je crois pas qu'il y ait quelqu'un. Je pense pas, d'après moi. Après, c'est certain qu'on peut essayer. On peut essayer. C'est difficile lorsqu'ils sont à 2000 km, on peut pas...
Déradicalisation, mode d'emploi. Par Alain Lefkovitch et Doria Zénine.
C'est quoi de la déradicalisation? Aucune idée. C'est quoi? C'est quoi? C'est en fait quelqu'un qui est radicalisé mais qui se déradicalise. C'est ça? D'accord. C'est con. Mais c'est vrai, c'est con. Parce que radicaliser, déjà, pour moi, c'est un mot qui est même pas dans mon... Il est même pas dans mon vocabulaire, en fait, c'est ça, c'est... Il est même pas. Quelqu'un de radicalisé. Ça n'existe pas, l'islam radicalisé, il n'existe même pas. C'est soit l'islam, soit rien. Il n'y a pas d'islam, et l'islam, c'est la paix. Il y a radicalisation, mais c'est... Il veut dire quoi, ce mot, en fait?
Moi, ça me dit rien, des radicalisation. Moi, c'est simple. L'islam, c'est suivre le Coran et la Sunna à la lettre.
La radicalisation désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux et qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel.
Sur la notion de radicalisation, vous savez que le mot a été utilisé il y a à peu près 3-4 ans par le gouvernement français. Parce qu'il s'agissait d'un phénomène, premièrement, difficile à cerner, et deuxièmement, parce que c'était le mot le plus pratique pour désigner quelque chose dont on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. Alors, nous, on parle plutôt de daïchisation et de djihadisation, mais dans la discussion, pour aller vite, vous verrez qu'on pourra utiliser ce mot de radicalisation de manière un peu imprécise.
En termes de déradicalisation, tout le monde l'emploie aujourd'hui. Moi, je ne l'emploierai pas parce que c'est comme si vous aviez affaire, non pas à un être humain, mais à un ordinateur. Vous appuyez sur « reset » et puis vous retrouvez la personnalité d'origine. Non, l'expérience traumatisante de la radicalisation pour le jeune, mineur ou majeur, va laisser des séquelles en lui. Et il faudra sans doute, c'est ce que disent les spécialistes en la matière qui travaillent dessus aujourd'hui, avoir une capacité de résilience, c'est-à-dire d'intégration de ce traumatisme pour se reconstruire et retrouver de nouveaux repères de vie et peut-être une meilleure intégration aussi dans la société et dans l'environnement de l'individu.
On l'a bien compris. Si tout le monde rechigne à l'utiliser, considérant qu'il n'est pas le bon mot, le terme de radicalisation est pourtant un des plus médiatiques du moment. Tout comme son corollaire d'ailleurs, la déradicalisation. Concept encore flou, pourtant défini sur la base du concept non moins flou de radicalisation. Bref, une vraie cacophonie dialectique. Tous mes interlocuteurs me l'ont affirmé avec conviction. Si on ne nomme pas bien les choses, on ne pourra pas trouver les bonnes solutions. CQFD. Pourtant, 6 juillet 2016, Quelques mois seulement après le lancement par l'administration pénitentiaire de 5 unités dédiées pour lutter contre la radicalisation, Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté, faisait un premier bilan, insatisfaisant. Ce qui avait été annoncé comme le programme phare qui devait permettre, à terme, la déradicalisation dans 27 établissements pénitentiaires jugés sensibles, présentait plus d'inconvénients que d'avantages. Le ministère de la Justice est confronté à un phénomène dont il n'avait évalué ni la nature, ni l'ampleur, avait-elle déclaré alors. Comme tout le monde d'ailleurs. Sauf que dans le même temps, plus de 1000 jeunes Français partaient faire le djihad en Irak et en Syrie. Et même si on ne sait pas trop encore ce que recèle le phénomène de radicalisation, les pouvoirs publics, aidés en cela par des associations, se sont jetés à corps perdu dans la déradicalisation. On déradicalise à tour de bras même, tant les flammes semblent atteindre les étages supérieurs de la République. Et tout le monde y va de sa méthode, de son discours, de son explication. Mercredi 13 juillet 2016, la nouvelle est dans toutes les bouches. La fonction publique souffre de discrimination à l'embauche. Ah bon ? C'est avec David Valat, un ancien djihadiste repenti, que Michel tente depuis 2 ans de faire revenir son fils cadet parti faire le djihad en Syrie. Elle tente le tout pour le tout, sans discrimination.
Ben, le 21 février, donc, t'es la maman, j'ai dit oui. Il me dit ça va. J'ai dit et toi mon ange, il me dit oui ça va. Je vais dodo, je suis KO. Voilà comme il me parle, comme s'il était encore à la maison.
Michel.
Je lui dis, je suis à Nice, tu me manques. J'ai dit, tu m'appelles demain. Il me dit oui. Alors j'ai dit, dors bien mon bébé, je pense à toi, voilà. Il me répond, ne t'inquiète pas maman. Alors j'ai obligé mon bébé. Il me dit, je sais maman. J'ai dit, viens, reviens, assure, je suis là. Il me dit, je sais que tu es là, mais j'ai pas envie de rentrer. Pourquoi ? Il me dit, c'est comme ça. Je veux que tu écoutes. Quelqu'un qui a fait ce que vous avez fait. Alors il me répond, c'est qui ? J'ai dit, un converti à l'islam. Et il veut quoi ? Alors j'ai dit, rien mon bébé. Je veux simplement que vous écoutiez ce qu'il a vécu. Et il me dit, ouais, d'accord. Et je lui réponds, je le joins, je te dis. Et là il me répond, je vais dodo, maman. Et bonne nuit.
Pour arriver à sortir un jeune de son utopie djihadiste, il faut y croire. Il faut savoir qu'on n'est pas foutu, on n'est pas réduit à ses actes ou voilà, au fait qu'on a voulu partir pour toute sa vie et que, comme je dis, il y a une vie après Daesh.
Dounia Bouzard, anthropologue du fait religieux, fondatrice du CPDIS, le Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam.
Après, les gens qui reviennent de Daesh, ils disent « Non, Dounia, il n'y a pas de vie après Daesh. On est fiché, notre nom, il est partout. On a des papiers blancs à la place des cartes d'identité. On peut même pas faire du ménage ou porter des cartons à Carrefour parce qu'on tape notre nom et ils voient qu'on rentre de Daesh. » Donc, en vérité, même quand on en sort de cette idéologie, personne veut de nous. Quel sera notre avenir, même quand on reprend des études, même quand on a Bac plus 5. Donc, en fait... Voilà, c'est pas simple. C'est pas simple parce que le premier enjeu depuis 2 ans, c'était de les aider à quitter l'idéologie. Mais maintenant, l'autre question que le gouvernement n'aborde pas, c'est quelle place on leur donne pour qu'ils puissent recommencer leur vie. Je pense que je vais choquer beaucoup de monde, mais finalement, quand j'analyse les premiers pas des jeunes et les premières utopies, elles sont quand même toutes liées à la recherche de fraternité et de solidarité et d'égalité. Et à s'y méprendre, c'est quand même les valeurs de la République. Et les jeunes Français partent chez Daesh pour trouver des valeurs de la République. C'est quand même paradoxal. Évidemment, Daesh a enlevé la liberté. Donc le pari, c'est de dire l'humain n'applique jamais ses principes. Ils vous ont promis l'égalité, la fraternité. En fait, c'est que pour les riches. Vous, ils vous laissent dans vos quartiers délabrés avec une école à 2 vitesses, etc. Et on vous prend jamais pour quand vous postulez pour des emplois. Donc on va enlever la liberté. Et si on se soumet à Dieu, on pourra appliquer la fraternité et l'égalité. Et c'est vraiment ça. Je sais que ça paraît très surprenant pour les gens de l'extérieur, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui ne croient plus en la politique. Ce sont des jeunes qui ne croient pas que l'humain peut appliquer sa théorie. C'est des jeunes qui ont souffert quand même, même s'ils ne sont pas d'origine émigrée, du décalage entre la théorie et la pratique jamais reconnue par la République, qui continuent à présenter qu'elle applique toujours les droits de l'homme, qu'elle applique toujours l'égalité, au lieu de dire « c'est un objectif, on fait tout pour ». Mais on sait bien qu'il y a des défaillances. Au lieu qu'il y ait cette reconnaissance, c'est sans arrêt cette promesse. C'est tellement violent que finalement, des djihadistes qui arrivent en disant « nous, avec la soumission à Dieu, on va arriver à ce résultat-là », ben, je vous assure que c'est les trois quarts de l'engagement des jeunes.
Ce discours,
David Valat, ancien djihadiste.
S'agissant de la félicité dans l'au-delà, du martyr, tout ça, il est bon pour les nouveaux, les arrivants. Mais ceux qui perdurent, parce que l'espérance de vie est très courte, se rendent bien compte que ça relève de sornettes, toutes ces histoires. Quand on nous dit que le sang des martyrs sent le musc, pour l'avoir vérifié, non, ça sent la viande pourrie, c'est tout, ce que ça sent pas autre chose. Mais quand vous êtes confronté à tout ça, au bout d'un moment, vous réalisez bien que cette idéologie n'est pas fondée, mais qu'il est trop tard pour faire marche arrière. Vous y avez adhéré, vous êtes suffisamment enfoncé pour ne plus pouvoir faire demi-tour. On dépeint le religieux comme superficiel dans cette histoire, alors qu'il est prégnant jusqu'à un certain stade où il est délaissé parce que plus efficace, mais il est déjà trop tard. On a affaire à des gens qui vont continuer sur ce chemin-là parce qu'il y a un objectif politique à atteindre. Mais ils se battent plus pour les 72 vierges, hein. C'est fini cette histoire.
Non, je pensais ça au Fred au début, quand il me disait ça, je comprenais pas. Mais pourquoi 72 vierges, tu veux emmener avec toi au paradis, t'en aurais pas assez d'une? Surtout qu'il avait 18 ans quand il est parti. Pour moi, 72 vierges, j'y arrivais pas, mais je comprenais pas, faut dire. Après, avec le temps, j'ai appris à lire.
Mais aujourd'hui, il n'en est plus là.
Ah non, il ne me parle plus de 60. Voilà, il en veut qu'une. Il en voudrait une de famille.
Juste une, mais surtout, il en est à justifier son action sur l'aspect probant de protéger les populations civiles. Oui. C'est-à-dire qu'il est revenu de ce discours religieux. Il essaie de se justifier politiquement avec des arguments religieux, mais on sent bien que l'adhésion religieuse ne suffit plus. Parce qu'il voit bien qu'il participe à des exactions ou à un chaos ambiant. Même si lui n'a pas mis les mains dans le cambouis, il est bien dans cette mécanique-là quand même. Donc il y a un moment où soit il devient fou et il continue, soit il rentre. C'est plutôt la deuxième option, moi, que je pense être la sienne. Grâce à toi, Michel. Parce que si tu l'avais laissé, s'il avait perdu ce lien-là avec un amour filial, et surtout les détails de ta vie de tous les jours, ce que tu as mangé, ce que tu as préparé, qui t'a vu, ça le maintient dans un espèce de... dans une espèce de nostalgie de sa vie d'avant qui lui manque finalement.
Mais bon, ça fait beaucoup maintenant, ça fait 26 mois, hein. C'est dur. Quand est-ce qu'ils vont ouvrir un peu les yeux, un peu, tout petit peu?
Mais les gamins, ils se rendent pas compte de ça. Eux, ils s'imaginent toujours en capacité de riposter, ils sont dans un groupe puissant, mais non. Le mec qui combat avec toi, il est pas d'accord avec toi, il te bute, voilà. L'émir à qui t'as fait le serment d'allégeance te donne un ordre, tu l'exécutes pas, il te flingue. C'est comme ça. Et ça, ils le savent pas. Mais quand c'est un gars, un journaliste, un reporter de guerre qui le dit, ça passe par-dessus l'oreille. Mais un gars comme moi, quand je parle au merdeux, tout de suite, il se dit, ouf, ouais, ça a l'air bouillant, cette histoire. Et quand je leur dis, bah, les martyrs, ils puent la viande pourrie, hein. Le musc, jamais senti. Hein. Ça sent la peur, en revanche. Là, ah. C'est de ça dont on a besoin, réellement. Alors, pas que. Il faut des psychologues, il faut des sociologues, il faut des juristes, il faut des avocats, il faut des islamologues, il faut des imams formés à la laïcité, j'insiste bien là-dessus. Il faut d'anciens détenus qui travaillent, qui sont des travailleurs sociaux, de réinsertion ou de mise à disposition des éléments de la citoyenneté à ceux qui s'en sont le plus éloignés. Mais on n'y arrivera que si on répond collégialement, de façon collective. Mais on n'y arrivera pas, en revanche, si on se passe des anciens du djihad. Notamment la première génération dont je fais partie. Parce que les gamins ne sont pas encore en capacité de relater ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont vu, ni d'en faire l'analyse complète. Ça va leur prendre un long moment avant de pouvoir... Moi, il y a encore 4 ans, j'aurais été incapable de m'exprimer comme je le fais aujourd'hui. J'étais vite dans la véhémence et bon, allez, foutez-moi la paix, je me barrais. Je comprenais pas qu'on me comprenne pas. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que la classe politique est vraiment à la traîne sur ce dossier. C'est nous qui prenons les devants. de faire ce que nous pouvons en tant que citoyens. La riposte, elle va être citoyenne, je pense, avant tout. Sans ça, on n'y arrivera pas. Sans ça, on est mort.
C'est ce qu'ont bien compris certains de ceux qui déradicalisent, comme Dunia Bouzard, qui trouve dans ses repentis une ressource extrêmement précieuse. Combien de vies ont-ils déjà sauvées, comme ce jeune, estampillé djihadiste, tatoué, marqué au fer rouge par une société, fille aînée de l'Église, qui ne croit même plus en la rédemption. Mais lui, comment a-t-il fait ?
C'est assez compliqué comme question. J'ai connu une période dans ma vie où j'étais en prison, donc on attendait de moi que je réfléchisse aux raisons de mon incarcération. Effectivement, j'y ai réfléchi, mais dans le mauvais sens. Et où je me voyais de plus en plus comme un ennemi dans ce pays. Donc je pense que le moment où j'ai vraiment touché le fond, ça devait être au fond de ma cellule. Ce qui a sûrement marché pour moi, ce qui m'a sûrement donné envie de simplement d'aller voir ailleurs, c'est que ce soit en prison ou après la prison, on m'a pas renfermé en fait. Par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui de est-ce qu'il faut isoler les détenus radicaux ensemble ou pas. Il y a eu énormément de politiques carcérales à ce sujet-là, différentes périodes. Ce qui m'a fait énormément de bien à moi, ça a été justement d'être avec des détenus de différentes cultures et de différentes religions, et de me mélanger à eux et de pouvoir discuter avec eux de tout et de... aussi bien des raisons de mon incarcération que d'autres choses. Et de ne pas avoir à parler de ces choses-là, de thèmes en lien avec le terrorisme, uniquement avec des gens qui sont convaincus et qui vont tenir le même discours, mais plutôt avec des gens qui vont avoir un esprit critique et puis avoir un... Voilà, tout simplement, ils ne sont pas d'accord avec moi. Et puis, comment tu justifies ça? Ça, c'est important. C'est très, très important. Parce que quand on rentre dans ce processus, ce qui est important, c'est surtout la rupture. C'est la rupture qui va faire passer d'une étape à une autre et qui va faire accepter aussi facilement le discours, quel qu'il soit. Et l'ouverture a été justement la préparation à entendre un autre discours. Donc après la sortie de prison, j'essaie de rester un petit peu dans cette dynamique et j'ai essayé un petit peu de remettre en cause, de me donner un peu plus confiance en moi, d'essayer d'un peu plus réfléchir par moi-même, chose qui était très très occultée quand on était dans ces groupes. Je vous disais qu'on passe par des doutes, mais les doutes sont toujours considérés comme quelque chose de très néfaste, comme une attaque de Satan à laquelle il faut faire face. Donc là, j'ai essayé de me donner un peu plus confiance, de m'exprimer, de dire ce que je pense de ce qui est fait au nom de cette idéologie à laquelle je croyais encore, mais de dire je ne suis pas d'accord avec ce que font ces groupes. Et donc, j'ai essayé un petit peu de déconstruire ce discours. Ça a été pénible, ça a été long, ça a été très difficile. Et puis est venu un moment où je me reconnaissais plus tellement avec mes frères, puisque mon premier réflexe a été de retrouver mes frères et de continuer avec eux. Et puis à ce moment-là, j'ai voulu faire autre chose, reprendre une formation, reprendre des études, mais couper avec ce milieu. Et je pense que ça a été l'étape la plus déterminante. Celle qui m'a vraiment permis de me détacher et de vraiment réfléchir par moi-même et de vraiment croire en ce que moi j'ai envie de croire et non pas au discours qui m'est dicté. Sortir de ce « parce que c'est comme ça, parce qu'il faut faire comme ça » pour passer par « moi je pense que c'est comme ça » ou « je pense que... » Et ça, c'est vraiment une étape très très difficile à passer. Et c'est ce détachement physique, parce que moi c'était un lien physique que j'avais avec les gens, pas de virtuel, ce lien physique m'a énormément aidé, ça a été très très important, justement pour pas dire que tout ce qui est fait est négatif, au contraire, il y a de très très bonnes choses qui sont faites. Ce travail a été mené par des travailleurs sociaux. J'ai rencontré des travailleurs sociaux depuis ma sortie de prison, à qui j'avais fait le choix de raconter mon parcours, je m'en cachais pas. J'avais peur qu'en leur disant ça, ils aient peur. Au contraire,
Au contraire, quand je leur ai raconté ça, c'est comme si je donnais une justification à leur travail, comme si je donnais un sens à leur action, et ça leur a donné encore plus envie de s'investir pour moi. Ça, ça a été quelque chose de fort, et je l'ai senti. Je me suis senti redevable de ces gens-là. Il y a un lien très fort qui s'est créé. Et donc, c'est vraiment avec eux et grâce à eux que j'ai pu construire simplement un projet d'avenir, me projeter dans la société et puis essayer de me détacher de cette spirale dans laquelle je m'étais enfermé. Et ça m'a fait encore plus de bien que toute autre chose. À partir de là, on voit les choses avec du recul et on a une toute autre analyse, on a une toute autre vision. Et on accepte de se faire confiance à soi-même et de dire ce qu'on pense et de penser par soi-même. Et petit à petit, comme ça vient.
Ce qu'il dit là, c'est presque une conclusion et c'est fondamental. C'est parce qu'on croit en la personne, on croit qu'il y a toujours cet humain
Dounia Bouzard.
Derrière le déradicalisé. Comme avant, on a pu croire qu'il y avait l'humain derrière le trafiquant de drogue ou le gros bandit. Hein, lui-même peut croire en lui. Parce que quelqu'un qui sort de la radicalité, il croit plus en lui non plus. Il sait plus en qui, où est le vrai, où est le faux. Il sait plus en qui faire confiance. Il se fait plus confiance en lui-même, puisqu'il a cru en une utopie. Donc, c'est pour ça que les initiatives peuvent être bonnes, même si des gens ne sont pas spécialistes. Mais la simple confiance en l'humain qu'ils ont peut sauver des jeunes. Et ce qu'il donne aussi, comme dans son discours là, il donne exactement tous les critères de sortie de radicalité qu'on est en train de conceptualiser. Apprendre à redire « je », ne plus dire « nous », hein, se détacher du groupe, être un individu qui se remet à penser par lui-même, pouvoir accepter la complexité, ne plus être dans un monde binaire, avec justement tout blanc, tout noir, pouvoir trouver des arguments, se projeter dans la société, ça veut dire refaire confiance aux humains qui sont autour de moi, avoir des sentiments, exprimer ses sentiments, tout ça sont des critères qu'on va jauger et qu'on est en train de fabriquer en une espèce de fiche d'évaluation, hein, progressivement, pour se dire, tiens, ce jeune-là, il a fait tous ces progrès-là et maintenant, il est en train de redevenir un humain à part entière avec ses difficultés, ses obstacles, ses défauts, ses réussites, mais ça y est, c'est plus le groupe qui pense à sa place.
C'est-à-dire que ce processus, parce qu'on pourrait imaginer que c'est en allant là-bas, en voyant toutes ces horreurs, ou en vivant des horreurs, ou en étant obligé de faire des horreurs, que le déclic se produit et que c'est pour ça que vous êtes rentré.
Vous avez des jeunes qui font le deuil de l'utopie parce qu'ils vont là-bas pour un monde meilleur, pour un monde musulman, pour ceci, pour cela. Et face à la réalité, ils s'auto-déradicalisent, en tout cas en grande partie. Et puis vous avez des jeunes qu'il faut quand même désembrigader, même quand on les récupère à la frontière, sinon ils repartent. Hein, c'est la majorité des jeunes du numéro vert, où il faut, une fois que la police les attrape à la frontière, faut bien en faire quelque chose, sinon ils recommencent. Hein. Vous avez des jeunes de 12 ans qui sont partis 4 fois de suite, qu'on retrouve une fois en Grèce, une fois en Italie, une fois en Espagne, une fois en Turquie. Bon, direction la Syrie. Donc il faut aussi arriver à trouver des méthodes pour lui permettre de redevenir un individu qui se détache de ce groupe et de cette idéologie, même quand il n'a pas fait le deuil parce qu'il n'a pas été confronté pour de vrai.
Amélie Boukobza, vous êtes psychanalyste. En quoi la psychanalyse intervient dans le traitement de la question ?
Par rapport à notre cellule de déradicalisation, si tant est qu'on puisse appeler cela ainsi, nos dernières élaborations tournent autour justement de tenter de remplacer le cadre dogmatique de la science islamique, hein, en réalité, qui est à l'œuvre, par quelque chose de l'ordre d'un cadre dans le transfert, si vous voulez. Donc, ce serait utiliser une notion psychanalytique, mais pas tout à fait de la même manière que dans le cadre de la psychanalyse classique, donc qui serait du transfert, donc de l'accroche affective, si vous voulez, auprès de ces jeunes, pour pouvoir ébranler le principe même de leur certitude, avant même de travailler sur les petites certitudes que sont le dogme ou la politique ou des questions de cet ordre-là.
Et ça marche, Patrick Amoyel ?
Disons, ça marche au moins à moitié, ce qui est déjà pas mal. À moitié dans chaque cas et à moitié dans la moitié des cas. Donc c'est mieux que rien, c'est-à-dire qu'on réussit quand même à avoir les germes d'une diminution de la radicalité de la position, ce qui est déjà pas mal.
Oui, j'ai le souvenir. C'est une jeune fille que j'ai suivie dans les années post-2001, post-attentat, et que j'ai suivie de nombreuses années dans un centre pour adolescents.
Brigitte Jouy Herbibou.
Qui, d'une volonté d'émancipation, s'est transformée à un moment donné en un cadeau qu'elle m'a fait, qui a été un livre, on était en 2007, de Al-Qardawi. Donc c'était la place de la femme dans l'islam. Donc cette jeune fille qui était venue me consulter pour l'émancipation des femmes, quelque chose en elle s'était retourné qui faisait qu'elle préférait, elle, me dire, selon les dires de Al-Qardawi, comment une femme devait vivre pour que la société soit saine. Et comment la psychanalyse, par exemple, avait perverti, puisqu'il y a un passage qui est très éloquent dans le livre que j'ai donc lu, sur la psychanalyse et sur le fait que la psychanalyse avait par exemple libéré les mœurs, avait libéré la sexualité et que donc le sida était une des démonstrations divines par exemple de la mécréance et de la punition ultime si vous voulez. Donc cette jeune fille que j'avais suivie pourtant et avec laquelle un transfert avait été produit, etc., pouvait, par des livres déjà qui circulaient, on est dans les années 2008-2009, donc c'était pas une jeune fille qu'on va dire très lettrée, donc ça veut bien dire que quelqu'un, quelque chose, un groupe lui avait donné ses lectures à lire, et ce sont des choses qui se passent sous nos yeux depuis maintenant on peut dire au moins 10 ans, au moins 10 ans, mais je pense plus. En effet, depuis les années 90, c'est présent. En tout cas, chez nous, dans le département des Alpes-Maritimes.
Oui, allô ? Oui. 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 Oui, c'est-à-dire qu'en fait, M. Bon, il est vraiment en demande d'accompagnement. Hein. En tout cas, une personne qui soit, je dirais, sensibilisée, voilà, et qui soit, je dirais, accréditée par la préfecture de manière à ce que cette prise en charge soit vraiment ciblée. Parce qu'il a besoin de ça, il a besoin d'être rassuré. Oui, oui.
Mais je pense que tout, le voile et tout ça, ce n'est qu'un symptôme. Hein. Elle recherche une identité, puis il y a un gros conflit.
Après les mois d'attente, j'obtiens l'autorisation de m'entretenir avec les responsables de la plateforme d'assistance aux familles touchées par le phénomène de radicalisation. Une plateforme mise en place par le ministère de l'Intérieur. Il y a même un numéro vert qui fonctionne du lundi au vendredi, de 9h à 18h. C'est Eliane Teyomas qui est aux commandes, une psychologue clinicienne attachée à l'unité de coordination de la lutte antiterroriste.
Je pense qu'il faut être très clair aussi sur la définition même de la radicalisation. On parle beaucoup de radicalisation à l'heure actuelle, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Je crois qu'il faut être clair par rapport à cela. Qu'est-ce qu'une radicalisation? Comment on l'évalue? Je pense que ce terme, il est assez galvaudé à l'heure actuelle, hein, parce que, d'une part, il fait de l'audience, je crois aussi, hein, et puis, c'est un terme aussi qui est utilisé parce que tout le monde essaye d'en parler. Bon, déjà, il y a une doctrine, hein, je parlerai pas de religion, mais de doctrine. La doctrine, c'est effectivement l'islam. Mais on sait très très bien que dans cette radicalisation, il est peut-être question d'une couverture qui est la foi, alors que c'est pas ça du tout. C'est une doctrine qui est violente, qui est une doctrine qui amène de la rupture, qui amène effectivement à une communauté, mais qui n'a absolument pas, en tout cas, les valeurs qui sont prônées par la religion islamique. Ce qui est assez surprenant dans les appels que nous avons, ce sont les indicateurs qui sont évoqués. Ce sont des indicateurs qui, en tout cas, sont en rupture souvent avec l'environnement habituel par exemple, quelqu'un qui subitement fait sa prière 5 fois par jour, s'isole, fait des ablutions. C'est par exemple une famille qui est biculturelle où il y a un père qui est, par exemple, de français, de souche française, et puis l'autre de souche plutôt musulmane.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de terminologie, de mots qu'on utilise? Vous dites, il y a d'un côté, dans les couples mixtes, une personne de souche française et une autre personne de souche musulmane. Est-ce que on fait pas la confusion? On peut être à la fois français et musulman. On peut être. Est-ce qu'il n'y a pas une utilisation des termes qui, finalement, font ressentir à tous ces jeunes en rupture, d'une manière ou d'une autre, qu'ils ne sont pas français?
Moi, je c'est vrai que Ces jeunes, bien souvent, enfin, il y en a beaucoup qui sont effectivement en situation d'exclusion. Mais il n'y a pas que ces jeunes-là. Il y a aussi des jeunes qui, finalement, n'ont aucun lien ni avec la religion, avec l'islam, ni avec la culture musulmane. Enfin, ce sont des personnes qui sont parfois même pas exclues du tout, mais qui ont une problématique qui est de type affective.
Alors, vous dites que la plateforme a été créée en avril 2014. Depuis, il y a foison de déradicalisateurs. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ?
Je trouve que c'est très présomptueux de dire qu'on est dans la déradicalisation. Hein. Déradicalisation, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de signes objectifs observables par rapport à une présumée radicalisation ? Est-ce que ça veut dire que il n'y a plus de signes apparents, il n'y a plus de voile, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est ça, la déradicalisation ? Est-ce que c'est... qu'est-ce que c'est ? Alors, ça va être difficile, ça aussi. Lorsqu'on a un adolescent qui est en pleine mutation identitaire, dire qu'on va le remettre d'aplomb en le remettant comme il était avant, c'est une ineptie, vous le comprendrez très très bien. Et vous me disiez, j'ai pris connaissance de ce phénomène. Oui, mais je vois qu'il évolue. Et peut-être que là, je suis sur du factuel et je ne suis pas sur du théorique. Or, là, je dois dire que je l'ai découvert, mais je dirais aussi que je l'ai découvert dans le déclaratif des personnes qui appellent et aussi dans les fiches qui ont été éditées à ce moment-là. Qui me permettent peut-être d'avoir quelques repères. Hein. Mais ce sont des repères factuels, je le dis. Hein. Ce n'est pas des choses que j'ai produites à partir d'une théorie. Les réponses, à mon avis, elles ne sont pas que policières, elles ne sont pas que éducatives, elles ne sont pas que sociales. Et je dirais que ce problème, il faut nécessairement l'appréhender en pluridisciplinarité, en pluri-institutionnalité. Et dans les cellules de suivi, il y a cette pluriministérialité qui est représentée. Il y a les instances de l'éducation, il y a les instances de la santé, il y a les instances de la justice, il y a les instances policières. Donc il y a la famille, il y a les éducateurs. Enfin, tout se regroupe pour essayer d'appréhender un dossier, je dirais, par toutes les voies possibles. Et les solutions, elles sont aussi pluridirectionnelles. Il y a quelques mois, nous avons eu une jeune fille qui a été approchée au sein de son établissement. Eh bien, la solution pour essayer de la distancier de cet environnement qui pouvait être délétère pour elle, c'était de trouver d'une part des mesures sociales que la préfecture a mises en place en termes de déménagement de cette famille qui habitait dans un endroit où cette jeune fille était trop exposée. C'était un changement d'établissement scolaire. C'était des mesures de prise en charge psychologique pour elle. Donc il fallait trouver ces instances-là pour que ces instances pluridisciplinaires puissent travailler sur le même dossier et en tout cas prendre en charge cette famille et surtout la signaler de la manière la plus optimale possible. Donc dans ma profession, je crois qu'on est dans l'aide à la personne. Et c'est vrai qu'il y a des fléaux sociaux, mais ça demande une lecture aussi qui est beaucoup plus sociale et qui dépasse, je dirais, mon rôle de clinicien, qui est la prise en compte de l'individu.
Aujourd'hui, donc, on est tous au courant qu'il y a ce numéro vert.
Marianne, psychologue dans une mission locale du sud de la France.
Où beaucoup de familles ont encore du mal à appeler. Évidemment, hein, puisqu'on est dans quelque part la théorie du complot, les institutions, etc., le numéro vert, c'est l'État. Donc, il y a un manque de confiance encore qui se fait sur le fait d'appeler. Bon, certains parents ont quand même pris ça en compte aujourd'hui et appellent quand même la cellule pour qu'il y ait une prise en charge.
Cette plateforme s'est au fur et à mesure développée. Dans l'urgence, nous avons embauché 4 réservistes de la police nationale qui ont été choisis en fonction de leur caractère. Ce sont des gens qui ont de l'expérience professionnelle, environ une trentaine d'années, et ce sont des gens qui ont aussi, et ça n'est pas le moindre des avantages, mais globalement 55 ans d'expérience humaine, tout simplement.
Loïc Garnier, ancien patron de la brigade criminelle, devenu chef de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste.
En leur donnant aussi toute une grille d'analyse de ce qui leur a été dit, pour justement pouvoir distinguer quel était le bon grain de l'ivraie, autrement dit la part de calomnie, de la part de détresse. Aujourd'hui, on peut faire un bilan de cette plateforme téléphonique, qui est un bilan extrêmement positif. Nous avons environ 4500 signalements dus à la plateforme, ce qui correspond à environ en tout 30 000 appels. Et la grille d'analyse que nous avons de manière très pragmatique mise en place nous permet justement de distinguer les cas de vraie radicalisation des cas de fausse radicalisation ou des cas douteux où l'on sent qu'il peut y avoir une forme de dissimulation. Pour moi, c'était un challenge, un vrai challenge. C'était aussi un devoir de réussite compte tenu de l'ampleur et de la difficulté du problème. Et lorsque l'on traite du terrorisme, il est bon aussi de traiter de manière, entre guillemets, scientifique, des racines du terrorisme. Or, les racines du terrorisme se trouvent dans la radicalisation. Peu importe ce qu'on met dans le mot radicalisation, parce que là encore, il faut être très prudent. C'est une radicalisation du comportement, plus que souvent une radicalisation religieuse. Et ce challenge, je pense que aujourd'hui, nous l'avons, et collectivement, je ne parle pas seulement de mon service, mais nous l'avons remporté, tout simplement, en obtenant la confiance du public. Ce qui fait que le flux, j'allais dire malheureusement, ne se tarit pas.
C'est une mission de pompier qu'on vous a confiée. On éteint les flammes avec cette plateforme.
Ce n'est pas une mission de pompier qu'on nous a confiée, c'est une mission de SAMU. J'ai tendance toujours à dire, et je pense que j'ai en grande partie raison, que ce problème de radicalisation, si en tout cas il se traduit par une désocialisation, voire par des départs en Syrie ou en Irak, est un problème de sécurité, certes, mais c'est aussi un problème de santé publique. On parle souvent pour les armées, les combattants, par exemple de syndrome post-traumatique. Eh bien, ces jeunes qui auront vu des atrocités vont aussi, malheureusement, souffrir, sans doute, de syndrome post-traumatique. Et par ailleurs, auront un degré de tolérance à la violence qui ne sera plus du tout le nôtre, qui ne correspondra plus aux standards de nos sociétés républicaines et démocratiques. Donc on aura là des gens en décalage, qui auront vu commis, éventuellement, des atrocités, et qui vont, dans le futur, en souffrir, et nous en faire souffrir aussi. Nous sommes, en quelque sorte, des lanceurs d'alerte. Le fait de signaler peut ne pas empêcher totalement et à 100% les gens de partir. Il n'y a pas de recette magique, ça n'existe pas. Certains ont voulu nous faire croire qu'ils avaient des recettes, ça n'est pas vrai. Mais encore une fois, celui qui m'expliquera qu'on peut déradicaliser, désembrigader ou désengager, comme certains disent, assez facilement, encore une fois, il faut qu'il me donne la recette. Moi, je ne la connais pas.
Pensez-vous que c'est une bonne idée de les mettre tous ensemble en prison? Et en les mettant tous ensemble, est-ce qu'on ne crée pas des réseaux à l'intérieur des prisons qui vont faire des petits à l'extérieur des prisons?
Il y a du pour, de toute façon, et on trouvera toujours du contre. Le pour, c'est d'éviter une contagion systématique. C'est de sanctuariser certains endroits. Le contre, évidemment, c'est que, en effet, ces gens se regroupent, sont susceptibles de développer entre eux des liens très forts, avec des cas très particuliers, notamment tout ce qui est stratégie individuelle. Il y a des jeunes, notamment, qui arrivent en prison, qui sont complètement paumés, et dans ce milieu, il faut parfois appartenir à une communauté pour être protégé. Pour résumer, le problème est complexe, il faut essayer un certain nombre de choses, et il faut être aussi très prudent quand on parle de déradicalisation. Moi, ce que j'observe depuis maintenant quelques années, c'est qu'un certain nombre de programmes ont été mis en place dans des pays étrangers, que je ne citerai pas pour ne pas les stigmatiser, mais aucun n'a fonctionné. Pour une bonne raison, c'est qu'on a voulu donner les remèdes avant d'avoir fait le diagnostic. Ici, nous n'avons pas forcément les réponses, mais nous avons peut-être pris plus de temps pour faire un diagnostic, le plus juste possible, et mettre en place ce qui est en cours, des structures adaptées. Ça nécessite une doctrine précise, guidée par à la fois du bon sens, mais aussi par l'expertise d'un certain nombre de personnes. Tout cela sera mis en place dans les mois qui viennent, à titre expérimental, mais là encore, il faut essayer. Je pense que cela peut fonctionner. J'y crois profondément, sinon je ne serais pas là en train de vous l'expliquer. Pour l'instant,
David Valat,
on n'a pas de retour d'une méthode. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a plusieurs à mettre en place de méthodes. La méthode du discours, la méthode de l'apprentissage, la méthode éducative. C'est-à-dire qu'il faut s'adresser aux plus jeunes de nos citoyens, aux futurs citoyens, à savoir à l'école primaire. Il faut s'adresser en contre-discours du discours djihadiste. Il faut laïciser la communauté musulmane de France pour obtenir des musulmans laïcs. Il y en a marre. Moi, j'en ai marre, je vous le dis franchement, d'être représenté par des moustachus du bled. Il ne s'agit pas de racisme, il ne s'agit pas de ça. Mais nous avons affaire à des gens qui entendent représenter religieusement une partie de notre communauté nationale, alors qu'ils sont issus de substrats idéologiques, ethnologiques, religieux, qui ne sont pas les nôtres. Ils sont issus de sociétés qui ne sont pas les nôtres. Ils sont issus d'une culture qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas en dessous ou en dessus de la nôtre. Il ne s'agit pas d'une question de valeur. Il s'agit d'une question de concordance avec le milieu ambiant. Et nous avons des représentants de l'islam qui sont en inadéquation totale avec la société française. Mais si nous ne prenons pas conscience que la réponse doit se situer au niveau religieux, pédagogique, social, psychologique, même militaire, de sécurité, on n'y arrivera pas.
Soi-même, on ne sait pas vraiment pourquoi on est rentré dedans. On est rentré dedans et puis on est convaincu par quelque chose. Donc c'est déjà très très complexe à comprendre. Et je pense qu'il y a besoin d'énormément d'initiatives comme ça, aussi différentes les unes que les autres, qu'elles doivent se compléter, qu'elles doivent travailler ensemble et surtout pas se tirer dans les pattes. Surtout pas. Et pour moi, personnellement, dans ma reconstruction, arrive un moment où on commence à se détacher, on commence à se remettre en cause. Ça prend du temps et on accepte peut-être l'idée de faire partager cette expérience à d'autres. C'est ce qui m'est arrivé, moi. C'était mon ancien avocat qui m'avait suggéré l'idée de travailler un petit peu dans la prévention auprès des jeunes. J'ai foncé, j'ai contacté CPDSI. Et puis une fois dedans, on se rend compte qu'on a quelque chose à apporter à ces jeunes, mais aussi qu'eux aussi nous apportent quelque chose. Parce que plus on avance dans ce travail avec eux, déjà on répond à nos propres interrogations, parce qu'il y a certaines choses qu'on a refoulées, il y a certaines choses qui sont claires pour nous, on sait pourquoi on est sorti, d'autres choses qu'on a préféré refouler quelque part. Donc on avance dans ce chemin avec eux, et ça permet aussi d'avoir une certaine stabilité, ça permet aussi tout simplement de se détacher de cet engagement qu'on avait, pour le transformer vers un engagement dans une toute autre cause et d'essayer de faire en sorte qu'une expérience aussi négative que la nôtre puisse se transformer, pourquoi pas, en quelque chose d'autre. Mais ça, c'est encore à nous de le construire, c'est encore à nous de...
Ce qu'il dit, c'est très important parce que...
Dounia Bouzard.
En fait, moi, on m'a interdit de travailler avec lui. C'est-à-dire que quand vous avez besoin des repentis pour sauver d'autres vies... Il y a toujours dans le débat public et je crois aussi dans l'esprit de beaucoup de professionnels, policiers et des élus, l'idée que quand on a été terroriste un jour, on sera terroriste toujours. Or, il faut bien comprendre que personne n'arrivera à déradicaliser quelqu'un sans repenti. Parce que la radicalisation, elle est basée sur une illusion. On donne une illusion au jeune. On lui dit, voilà, si tu adhères à cette idéologie, non seulement tes problèmes personnels seront comblés, mais en plus de ça, tu vas avoir une mission, tu vas régénérer le monde, et tu vas régénérer le monde comme ça. Donc, la seule personne qui peut faire tomber cette utopie que présentent les recruteurs de Daesh par Internet, notamment, ce sont des gens qui ont vu soit Al-Qaïda, soit Daesh en face. Et qui peuvent revenir en disant, mais en fait, j'ai été incarcéré 5 mois là-bas parce que j'ai refusé un mari que je ne connaissais pas. On m'a même pas donné de courant, alors qu'en France, on a au moins un courant en prison. En fait, j'y allais pour une utopie de justice, mais il y a que ceux qui font allégeance, qui ont le chauffage gratuit, les autres, ils crèvent la bouche ouverte. En fait, j'y allais pour appliquer l'islam, finalement, les valeurs de l'islam sont pas appliquées, voilà comment ils les utilisent. Donc, il y a que des gens qui ont vu l'expérience, parce que quelqu'un qui est radicalisé, il ne pense plus. Donc, c'est vraiment par une conviction profonde. Et quand il dit... moi aussi, ça m'apporte quelque chose. Ça aussi, c'est le deuxième aspect qui fait que seuls les repentis peuvent aider les gens qui sont encore dedans parce qu'ils sont sincères et authentiques. Si vous payez un comédien pour faire un repenti, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a rien qui vient du cœur, parce que c'est le repenti, en fait, il souffre encore que son utopie, finalement, n'existe pas. Parce que tous les radicalisés ont cru en cette utopie. Et donc, les repentis, il n'y a vraiment qu'eux qui peuvent aider. Donc, ne pas avancer là-dessus et partir du principe que on ne pourra jamais faire confiance à un repenti, ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait des milliers de jeunes qui sont actuellement complètement radicalisés, embrigadés, on peut le dire comme on veut, par Daesh et Al-Nosra et Al-Qaïda? Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, le programme de réinsertion des repentis, c'est pas uniquement pour être gentil avec les repentis, c'est pas uniquement pour leur donner un futur, mais c'est l'intérêt public. Hein. Et ça, je crois qu'on est très, 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 très loin de ce débat. Un repenti, en plus, il s'épuise. Il faut savoir que vous pouvez pas passer votre vie à faire ce travail de témoignage. Moi, je vois bien, hein, on a eu toute une série de gens qui ont énormément témoigné pour nous. Et au bout de 4 ou 5 mois, ils s'épuisent parce qu'ils ont envie de passer à autre chose, ils ont envie de reconstruire leur vie, ils ont envie de sortir de la sphère du djihad, même si c'est pour sauver d'autres. Donc vous pouvez pas faire ça 10 ans non plus. Hein. C'est un passage. Donc qu'est-ce qu'il y a après? Alors après, c'est moi j'en ai une actuellement qui est hyper déçue parce que elle nous a aidé à sauver plein de vies. Hein, c'est une des rares survivantes de Daesh. Là, elle n'arrive absolument à rien trouver parce que son nom est dans les médias. Et elle dit, moi, je crois maintenant en mon pays, j'ai sauvé des vies, mais pourquoi personne ne fait rien pour moi? Et j'ai très peur pour elle.
Il est quelle heure, là, en Syrie?
1 heure de plus, 22 heures. Claire, il est 21h, 22h. Non, il répond pas.
Si jamais il t'envoie un message dans la nuit, même à 3-4 heures du matin, envoie-moi un SMS. Comme ça, j'essaie de lui en envoyer de moi, de mon côté. Parce qu'à mon avis, on n'aura pas de nouvelles avant...
Depuis que j'ai dit Fred, tu veux bien parler avec David?
Alors, attends.
Il répondra pas.
Je vais te faire voir notre dernière conversation. Voilà, c'était le 21 mars. Donc, tac. Voilà. Tu sais, frère, son seul souhait, c'est de te revoir sain et sauf. Il me répond, je sais, mais je veux pas rentrer. Et je lui réponds, personnellement, je me disais la même chose. Quand j'étais en Afghanistan, on me disait que de retour en Europe, si on savait que j'étais venu, je me ferais torturer immédiatement. Mais au final, rien de tout ça. Il me répond, je sais... C'est pas ce qui me fait peur, c'est Allah qui me fait peur, c'est vers lui que nous retournerons. Et je lui réponds, évidemment que c'est à lui que nous ferons tous retour. Ben voilà, fallait pas faire demi-tour, c'est ce qu'il me dit. Ce n'était pas un demi-tour, on m'a capté en vol, alors que j'étais en France à ce moment-là. Après, il y a une notion qu'il faut bien connaître, je pense que tu dois le savoir, il y a une différence fondamentale entre le fard ayn et le fard kifaya. Alors pour donner un peu d'explication, le fard ayn, c'est ce qui relève de l'obligation directe. Le fard kifaya, c'est l'obligation indirecte. Je m'explique. Si la guerre se déclenche dans un pays, il est fard ayn, c'est une obligation directe pour tous les jeunes hommes de ce pays de combattre. Et si au bout de quelques mois, on réalise que le contingent sur place ne suffit pas à repousser l'attaque, cela s'étend, cette obligation, au premier voisin. Si ça ne suffit pas, ça s'étend au voisin plus large. Si ça ne suffit pas, ça s'étend à toute la communauté. Mais c'est rarement le cas. Donc je lui dis, après il y a une notion qu'il faut connaître, je pense que tu dois le savoir, il y a une différence fondamentale entre le fard ayn et le fard kifaya. Il me dit, oui je sais. Tu connais l'histoire de Daoud alayhi salam dans la sourate al-Baqara. Donc là je rentre dans le strictement religieux. Il me répond que oui. Tu connais alors toutes les étapes à franchir avant de combattre? Il me dit oui. Je ne veux pas te dire que ton intention n'est pas bonne, pour cela seul Dieu sait. Mais l'intention ne suffit pas pour agir selon ce que Dieu agrée. Et il me répond, c'est pas pour autant que je vais partir, si tu me parles pour que je rentre, ben continue parce que ça va pas marcher. Pas grave. Je lui réponds, maintenant je vais te dire un truc qui ne va pas te plaire. Parce que après, il me sort plusieurs mots au lieu de oui, non, il est moins laconique, parce que je le titille. Maintenant, je vais te dire un truc qui ne va pas te plaire, mais je dois le faire. À mon sens, prendre soin de ta mère est fard aïn, c'est une obligation directe. Alors que combattre en Syrie est fard kifaya, c'est une obligation indirecte. Et il me dit, t'es dans un égarement pas possible. Et je lui réponds, bah cela personne ne le sait sauf Dieu lui-même. Après il dit, tu dis des paroles, surveille tes paroles. Je l'énerve vraiment. Et après je réponds, pourquoi Dieu seul sait qui va au paradis, qui va en enfer? Sinon c'est du kufr ou du shirk. Le kufr, c'est le fait de renier l'engagement que l'on a pris. Et le shirk, c'est celui d'associer quelqu'un ou quelque chose à Dieu. Si je commence à dire qui va au paradis, qui va en enfer, je deviens mouchrik. Et après, je lui cite un verset, Allah yadli man yasha wa yudillu man yasha. Dieu guide qui il veut, il égare qui il veut. Après, il me dit, qui t'a dit que c'est fard kifaya ici? Il commence à... Pourquoi tu me dis que c'est une obligation indirecte? Parce que cette guerre est imposée, parce que personne ne sait qui dirige. Côté contrôle de CNR, les exactions commises en disent long sur le manque de contrôle de CNR. Que la victoire appartient à Dieu et pas à nous. Après, il me dit, si on fait rien, la victoire, elle vient comme ça? Trois points d'interrogation. Il me dit encore, écoute, je sais ce que je fais. Là, t'es en train de faire le shaitan, le diable. Mais il finit par, assalamu alaikum. Pour un diable, il me respecte encore, apparemment. Donc, et je lui réponds, bien sûr qu'il faut combattre quand la guerre nous tombe dessus, mais il ne faut pas se jeter dedans. Après, ce n'est qu'un avis, mais je ne crois pas que tout soit très clair en Syrie. Et je le laisse avec ça. C'est-à-dire que je sais très bien qu'il essaie de se justifier politiquement en argumentant religieusement, et je vais sur ce terrain religieux pour le ramener à la réalité avec la conclusion de la guerre ne t'était pas imposée, tu y as été toi, donc t'es loin des conditions qui permettent de le faire. Tu ne sais pas qui est ton dirigeant alors qu'il faut qu'il soit désigné clairement. T'as pas de contrôle de tes nerfs, parce qu'on voit bien ici à la télé les exactions commises contre les civils, ça en dit long sur le manque de contrôle de leur propre personne, des combattants sur place. Et surtout, depuis le temps, la victoire, si elle avait été écrite, serait déjà parvenue. Donc si ça dure en longueur, c'est que Dieu n'a pas choisi de camp dans cette histoire. En revanche, prendre soin de ta mère, c'est une obligation. Et ça, il n'a pas d'argumentaire à mettre en face. Alors, d'un côté, c'est bon signe, parce qu'il en est encore à vouloir se justifier religieusement et qu'il n'est pas rentré dans le champ du politique. D'un autre côté, c'est mauvais signe, parce qu'il m'entraîne sur un terrain d'une justification ou non de la guerre, avec un argumentaire qui se veut humaniste, mais je suis obligé d'utiliser les outils religieux pour le ramener à... Donc quelque part, j'essaie de le ferrer avec des arguments religieux pour le ramener à une logique humaniste, mais j'ai beaucoup de mal parce que je suis pas le seul à attraper dans ce filet-là. Il y a d'autres gros poissons avec lui. Donc pour le ramener, c'est très compliqué puisque le moindre mètre que je gagne, en deux coups de queue, ils reprennent le large. Donc c'est vraiment... C'est pour ça que je dis que j'ai un sentiment de gâchis dans cette histoire, parce que ce gars-là, réellement, si je l'avais travaillé quotidiennement depuis qu'il y a été, dès le départ, je suis sûr que je l'aurais fait entendre raison. Je suis brutal hein, dans ce que je dis, non, je le sais bien. Mais
moi, je m'attends à tout. Hein. Mais... Je peux m'attendre à ce qu'on me dise « Fred est rentré, on l'a pris » ou « Fred est... » Malheureusement, mais bon. Mais bon, tombe. Je ne cherche pas à savoir.
Merci à Michel, David Valat, Saphir, Ivano, Zoumouroud, Scheherazade, Douniazade, ainsi qu'à Marianne, Catherine, Tahar, Kermi et Emmanuel Fidalgo. Merci à Dunia Bouzard et à son équipe du CPDIS pour leur aide précieuse et aux psychanalystes de l'association entre autres Amélie Boukobza, Patrick Amoyel et Brigitte Jouy-Herbibou. Merci enfin à Eliane Teyomas et à Loïc Garnier. Déradicalisation, mode d'emploi, réalisation Doria Zénine, mixage Bernard Laniel, attaché de production Marie-Vonne Abolivier, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination Perrine Carvran. Un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire.
Et voilà, LSD, la série documentaire, c'est terminé pour cette semaine. C'est proposé par Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Bibliographie, podcast, réécoute, liens et commentaires, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, la révolution douce de l'économie sociale et solidaire.